Livre des Proverbes, Salomon qui s'exprime, selon toute vraisemblance. Chapitre 4, verset 1er. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous donne un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais en effet un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'enseignait et alors et me disait que ton cœur retienne mes paroles, garde mes commandements et tu vivras. Amen. Ici, Salomon explique que de la même manière que lui-même a été instruit par son père, David, qui l'a enseigné, qui lui a révélé les voies de Dieu, qui lui a expliqué comment se comporter, comment vivre, eh bien lui-même fera la même démarche. Et ici, ce simple passage nous parle en premier lieu de la nécessité pour un enfant, de la nécessité pour un homme, de la nécessité pour un chrétien, tout simplement d'être enseigné, de recevoir des paroles de Dieu, de recevoir des conseils de la part de Dieu. Deuxièmement, ici, ce passage nous parle de plus que de simplement de l'enseignement, mais nous parle de retransmission. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a l'enseignement que l'on sait conscient, l'enseignement que nous donnent nos parents, l'enseignement que nous donnent nos professeurs, l'enseignement que nous donne le pasteur, que nous donnent les autres chrétiens, l'enseignement conscient. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est inconscient. Il y a tout ce qui est latent. Il y a tout ce qui est transmis de père en fils, de génération en génération, sans même qu'on en soit conscient et sans même qu'on ne le sache. Je ne parle pas de génétique, je ne parle pas de la couleur des yeux, mais je parle de valeurs, je parle d'identité qui finalement nous définissent. Nous transmettons les choses les uns aux autres. Nous recevons les uns des autres. Les parents enseignent les enfants et parfois les enfants enseignent les parents. Nous recevons de nos amis, nous communiquons à nos amis. Pasteurs, chrétiens entre eux, se donnent des choses, se communiquent des choses. Vous m'apportez des choses et j'espère également à mon tour pouvoir vous en apporter. Le patron apporte à ses employés. Bref, il y a une transmission qui est bien supérieure à ce qui est dit et à ce qui est affirmé. Nous avons tous un héritage spirituel qui nous a été donné. Nous avons tous reçu dans notre cœur quelque chose qui est venu de Dieu. Nous avons tous reçu des joies dans la vie chrétienne, et puis parfois des tristesses, voire même des blessures. Et tout cela nous construit. Tout cela fait de notre identité. Tout cela fait ce que nous sommes aujourd'hui et détermine en quelque sorte la manière dont nous nous comportons, la manière dont nous agissons, et même pire que ça, la manière dont nous réagissons. Là se pose une question. Maintenant que le sujet est quelque peu éclairé, question qui est double. Quel type de choses est-ce que je transmets? Nous allons le voir. Quel type de choses est-ce que je reçois? Quel type de choses est-ce que j'ai reçu? Et dans mon cœur, il y a cette pensée qui est très forte. Parmi nous, un homme, une femme, un frère, une sœur, aimerait sortir du poids de l'héritage qui lui a été transmis par ses parents. Aimerait pouvoir vivre, aimerait pouvoir s'épanouir au-delà et en dehors des blessures qui ont pu être déposées dans son cœur. Qu'on sache bien que le Seigneur, que Jésus, est celui qui brise les choses, qui change les choses. Si on a transmis de la haine, et nous le verrons tout à l'heure avec l'exemple des dômes dans ton cœur, Jésus est capable de le changer. Si on a gravé des choses terribles dans ton cœur, des douleurs profondes, Jésus est capable, eh bien, de les enlever, de les transformer. Parce que Jésus fait une œuvre de restauration. Jésus fait une œuvre de construction. Fait une œuvre de reconstruction parfois. Il est appelé le réparateur des brèches. Il est celui qui construit, il est celui qui reconstruit. Parfois, il est celui qui démolit afin de pouvoir bâtir sur un édifice solide, sur un fondement solide, sur le fondement de Jésus, sur le fondement de sa parole. on peut avoir des héritages qui sont lourds. Et si dans votre cœur, ce matin, dans le calme et dans la tranquillité, vous faites monter simplement cette prière, « Seigneur, soulage mon cœur et brise ce lien », alors l'Éternel est capable de le faire et de redonner un nouveau souffle et de redonner une identité nouvelle. Nous pouvons transmettre à notre tour, nous pouvons recevoir. Mais que pouvons-nous transmettre et que pouvons-nous recevoir ? Des choses bonnes et des choses mauvaises. Alors j'ai pris un petit peu dans les différentes idées de mon cerveau fécond, de manière à construire un plan, et j'aimerais voir trois choses que l'on peut transmettre ou que l'on peut recevoir, en sachant qu'il y en a des bonnes, et qu'il y en a des mauvaises. La première chose que l'on peut retransmettre, c'est la haine. Et je ne sais pas si dans votre famille, c'est comme dans la plupart des familles, mais de temps en temps, il y a des choses qui durent de génération en génération. Pour ceux qui ont lu Astérix en Corse, vous savez, c'est la bonne littérature, c'est la saine littérature. Le conflit qu'il y avait avec l'oncle de la tante qui était lui-même en conflit avec le cousin, du père, du machin, on s'y perdait. Et pourtant, il y avait toujours ce conflit dans le petit village corse, là. Et bien, dans nos petites familles, il en va parfois de même. Il y a des conflits, il y a des rancœurs qui remontent de génération en génération sans que l'on sache quoi. Qui sont enseignés par les parents aux enfants, qui eux-mêmes les enseigneront aux parents, etc., à leurs enfants, etc. Et on arrivera au retour du Seigneur Jésus, les conflits seront encore là. Et quand le conflit est simplement de la rancœur, c'est une chose, mais quand c'est de la haine, c'en est une autre. C'en est une autre. Ce sont des choses qui se transmettent, qui se retransmettent. Et notre responsabilité d'enfant de Dieu, c'est de savoir que nous avons un Dieu qui change, qui nous change, qui fait de nous une nouvelle créature, et de ce fait qui brise la chaîne, qui enlève le maillon de la chaîne. Et donc qui fait de nous un instrument de bénédiction pour notre famille, qui fait un instrument de bénédiction pour notre entreprise, bref, qui brise une chaîne de retransmission négative. Qui étaient les Édomites ? Ça, c'est une bonne question, ça. Ils sont présents dans la Bible. C'est une bonne question. C'est les descendants d'Ésaü. C'est les descendants d'Ésaü. Et Dieu avait déjà dit à Rebecca qu'il y aurait toujours, donc la mère d'Ésaü de Jacob, qu'il y aurait toujours un conflit entre ses deux fils. Genèse, chapitre 25, verset 23. L'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. » L'origine du nom Édom vient du mot roux, en vertu de la demande d'Ésaü à son frère, « Laisse-moi manger de ce roux. » Et c'est quelque chose qui a duré, et ainsi que la couleur d'Ésaü, etc. Du ressentiment, il y en a eu, suite au fait que Ésaü ait volé le droit d'aînesse, au travers de ce troc. Il y a eu du ressentiment, qui s'est transformé en haine lorsque Jacob va voler la bénédiction, et lorsque à partir de ce moment-là, Ésaü va jurer de tuer Jacob, qui lui va s'enfuir. Pendant 20 ans, Ésaü va nourrir de la haine contre son frère. Pendant 20 ans. Jacob est de son côté, Dieu est en train de le former avec Laban, qui était un homme tout aussi malicieux que lui. Et puis, il y a cette parole de Dieu qui va faire revenir Jacob vers son frère. Entre les deux, il va y avoir Péniel. Ce lieu où Jacob va se retrouver seul. Ce lieu où il va combattre avec la théophanie, l'ange de l'Éternel, et où il va être changé. Lui qui auparavant faisait passer ses enfants, sa femme devant lui pour calmer son frère, va passer en première ligne. Mais de son côté, Ésaü continuait à ressasser les choses. Il va y avoir une réconciliation, mais qui va être là. Mais simplement, Ésaü va vivre de son côté, Jacob va vivre du sien. Et la rancœur va se perdurer puisque les descendants d'Ésaü, 300 ans plus tard, vont manifester cette rancœur en refusant de laisser passer le peuple d'Israël par leur territoire lorsqu'ils vont sortir. En 1042 avant Jésus-Christ, David va conquérir les territoires avant Zinan, une fois la monarchie unifiée, et il va demander un tribut à Édom. Ainsi, la prophétie faite à Rebecca concernant les deux frères s'accomplit. Jacob supplante Ésaü. Ensuite, 146 ans après, Édom, qui est également appelé dans la Bible ceux des montagnes de Séir, hein, s'unit avec les Ammonites et les Moabites pour envahir Juda, mais ils échouent. On peut lire ça dans le second livre des rois avec le récit du livre du roi Josaphat. Et les hostilités reprennent jusqu'à ce que Juda soit déporté et que les Édomites, eh bien, se réjouissent de cela. Pendant des siècles, un peuple va cultiver une rancœur contre une autre. C'est quelque chose qui s'enseignait de génération en génération, de père en fils. Et il y a certaines parties du monde où ces choses-là sont encore enseignées, où cette haine est encore cultivée. On peut retransmettre des rancœurs. On peut retransmettre de la haine. La Bible se tait ensuite sur l'histoire d'Édom. Visiblement, ils vont être intégrés. On peut retransmettre de la haine. Mes frères et sœurs, peut-être est-ce le moment de réfléchir. Que nous a-t-on transmis ? Que nous a-t-on transmis ? Ne sommes-nous pas finalement l'instrument de Dieu pour, en quelque sorte, briser des chaînes ? Être ce maillon qui se désolidarise des actions des générations précédentes de manière à favoriser une bénédiction. Que nous a-t-on transmis et quel est notre rôle? Je crois que nous avons vocation à briser des choses malsaines, à briser par nos comportements, par nos attitudes, choses qui se retransmettent et qui pourrissent notre environnement, que ce soit familial ou social. Peut-être que le Saint-Esprit est en train d'éclairer une situation particulière dans un cœur. Nous avons notre rôle, nous avons notre fonction. Que le Seigneur nous y aide. Ne soyons pas comme les Édomites qui répercuteront la haine. Vous savez, cultiver l'amertume, cultiver la haine, c'est jamais une bonne chose. Et ça nous détruit nous-mêmes, ça nous casse nous-mêmes. L'esprit de revanche se grave dans la culture comme il se grave dans le cœur des enfants. Et je m'adresse particulièrement aux parents. Faites attention à ce que vous retransmettez à vos enfants, même de manière latente. Il y a un risque dans la famille, il y a un risque dans l'église, il y a un risque dans mon travail, etc., que je retransmette ou qu'on me retransmette des choses. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Deuxième chose que l'on peut transmettre dans une chaîne, mais cette fois c'est quelque chose qui est positif, c'est on peut transmettre, alors on peut apprendre à prier. Alors comme dit comme ça, c'est très simple, c'est très basique, mais on va creuser un petit peu l'idée. Luc chapitre 11 verset 1er. Évangile selon Luc chapitre 11 verset 1er. Jésus prit un jour et en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit : « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Nous voulons le meilleur pour ceux que nous aimons. Amen. Vous qui êtes des parents, vous voulez le meilleur pour vos enfants. Vous leur permettez de faire des études pour qu'ils soient ingénieurs, médecins, avocats, orthophonistes, etc., peu importe. Hein. Vous faites tout pour leur bien. Dans le domaine spirituel, il est évident que vous faites exactement la même chose. Depuis tout petit, vous priez avec eux le soir, vous lisez leur Bible, vous lisez la Bible avec eux. Ce sont des évidences. C'est des choses que tout le monde fait. Je n'ai pas besoin de le dire, je n'ai pas besoin de le marquer, je n'ai pas besoin de le souligner. C'est quelque chose... Voilà. Ici, les disciples vont aller voir Jésus, ils vont lui dire, écoute, Jean a appris à ses disciples à prier, mais nous, on aimerait bien que ce soit toi qui nous apprennes. J'aimerais bien que tu nous apprennes à prier. Parce qu'on a remarqué que tu y passais beaucoup de temps. On a remarqué que quand nous, on était couchés, eh bien toi, tu te levais, puis tu allais dans les déserts prier eh bien pendant la nuit pour être en communion avec ton Père. On a remarqué que lorsque tu priais, tu avais une puissance, une autorité que peut-être nous n'avions pas. On a remarqué des choses. Apprends-nous à prier.
Apprends-nous à prier.
Est-ce que vos enfants sont venus vous demander, papa, maman, apprends-nous à prier. Apprends-moi à prier. Personnellement, j'ai eu un peu de mal à le demander à mon père. Par contre, j'ai toujours été marqué par la manière qu'il avait de prier. Plus que des mots. Ce que Jésus a transmis à ses disciples, il va leur apprendre le Notre Père, ensuite il va leur donner le Notre Père, qui n'est qu'un modèle, un exemple de prière, hein, qui décline les thèmes que nous devons aborder dans notre piété, dans notre relation avec Dieu. Mais plus que des mots, plus que des méthodes, qu'est-ce que Jésus a transmis à ses disciples? C'est l'envie de prier, c'est la soif de prier. Mes frères et mes sœurs, que je ne vous transmette jamais des litanies, des méthodes, des rites, une liturgie, une manière de faire, mais que le Saint-Esprit puisse communiquer en vous l'envie d'eux, la soif d'eux. Lorsque les disciples regardaient Jésus, ils ont eu soif d'avoir cette même relation, ils ont eu soif de pouvoir utiliser cette même méthode, entre guillemets, de pouvoir la vivre avec l'intensité avec laquelle Jésus la vivait. Ils ont eu l'envie de le faire. Ils ont eu le désir de le faire. Ce que nous avons enseigné, mes frères et sœurs, ce ne sont pas des « voilà comment il faut prier ». Merci papa, merci maman pour la nourriture. Ce que nous avons à enseigner, c'est véritablement une soif. Nous avons à démontrer notre zèle, à démontrer notre envie, à démontrer notre amour pour notre Dieu. C'est ça que nous devons encourager, que nous devons mettre en avant. Mais Jésus a pu le faire, pourquoi? Parce qu'il avait ce zèle, parce qu'il avait cette soif. Quelqu'un dira un jour que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Elle ne peut pas donner autre chose. Je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas reçu. Et de la même manière, éventuellement, je peux le demander au Père de me le donner, afin de pouvoir le transmettre. Seigneur, donne-moi cette intimité avec toi. Donne-moi d'avoir plus soif de toi, afin qu'à mon tour, je puisse donner envie. Parce que j'entends certaines louanges le dimanche matin, ça me donne envie de relouer derrière moi. Je ne sais pas vous. Ça me donne envie de relouer derrière, de me dire, ah ouais, ça fait du bien, c'est chouette. Ça fait du bien. C'est frais, c'est naturel, ça sort du cœur. L'envie se transmet. Mais souvent, dans l'enseignement que nous donnons, dans l'apprentissage que nous donnons les bonnes bases. Mais nous oublions tout le reste, qui est de transmettre notre cœur, de transmettre ce que l'on est. Vous me permettez d'être un petit peu trivial? Transmettre nos tripes. C'est ça qu'on voit. Les méthodes, ce n'est quoi? Je ne peux pas le dire, mais ce n'est que de la religion. Et ce n'est que de la religiosité. En revanche, ce qui est important, c'est notre cœur, c'est ça qui se transmet. Notre passion, c'est ça qui se voit, c'est ça qui se manifeste. C'est ça qui se manifeste. Je me souviens, tous les samedis matins, oh, ça fait le vieux souvenir de guerre, mais depuis ma plus petite enfance, à 11h, la famille était réunie. La Bible était ouverte, on lisait un passage à tour de rôle. Et on priait. Et à 11h30, c'était terminé. Et plus que des mots, plus qu'une capacité à prier, ce qui m'a été transmis, et ce qui est transmis aux enfants dans ces cas-là, c'est la connaissance de la prière et c'est l'envie de prier. C'est cette flexibilité de dire « j'ai un problème, je peux prier ». Parce que je sais le faire, entre guillemets. Parce que je sais le faire. Et comme ça, quand on se convertit, ouf, les choses sont plus simples, sont plus faciles. Comment veut-on transmettre quelque chose que l'on ne vit pas? On ne transmet que de la théorie. Nous ne sommes des profs. On n'a pas vocation à être des profs. Mais j'ai vocation à partager ce que je vis, à partager la vie que le Saint-Esprit dépose en moi, parce que le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus et me le communique. Amen. Amen. Troisième chose, parce que le temps court. Le courage, ça se communique. C'est vrai, non? Regardez David et Goliath, le récit de David et Goliath. C'est fou. D'un côté, on a Goliath qui est le type du diable. Et qu'a-t-il fait? Il a insinué, il a instauré la crainte. Il a instauré la peur. Le peuple d'Israël ne bougeait plus. Il était figé. Et c'est intéressant de réfléchir, on le fera très sommairement, mais à ce que la présence de Goliath générait. Premièrement, le peuple ne reculait pas. Mais ça suffisait à Goliath. Le peuple ne reculait pas. Il restait à sa position initiale. Et pendant ce temps-là, il n'avançait pas. Et Goliath ne cherchait pas spécialement. Donnez-moi un homme qui pourra se battre contre moi. Le peuple était en position figée, il ne bougeait pas. Quand on n'avance plus dans la vie chrétienne, quand on se contente de rester à la place où on est, ça peut durer 40 jours, mais ça ne peut pas durer 40 ans. Hein. On n'oublie jamais que l'Éternel renouvelle les forces pendant la marche. Et quand on est arrêté, le diable il nous maintiendra arrêté, pas un souci. Mais imaginez, ça ne va pas être gentil, on va dire une chèvre ou un mouton qui broute, vous lui mettez le piquet, vous le mettez là le piquet, puis elle broute. Et puis, arrive un moment, qu'est-ce qui se passe? Mais à tout brouter, si vous ne changez pas d'endroit, plus rien à brouter. Hein. Pour un chrétien, c'est un petit peu la même chose. Bien qu'il n'ait rien à voir avec un âne, une chèvre ou un mouton. Vous l'avez pensé trop fort. Et quand il reste toujours au même endroit, il n'a plus rien à brouter. Et de ce fait, il devient tout mince, il s'affaiblit, incapable de combattre, et là le lion vient, le croque tout cru, et c'en est terminé. Deuxième chose que Goliath a fait, c'est que le peuple avait les yeux fixés sur lui, ils attendaient sa venue, même d'une manière inconsciente, soir et le matin, deux fois par jour, ils regardaient leur montre de l'époque, leur cadran solaire à leur poignet, et puis là, ils disaient, il va pas tarder, et puis ça ne manquait pas. Le voilà qui venait pour humilier le peuple de l'Éternel. Dans leur cœur, ils avaient les yeux fixés sur la venue probable de Goliath et non plus sur Dieu. Il y a ce passage très énigmatique que je ne commenterai pas ce matin du livre de Job qui dit que ce qui craint, c'est ce que l'on craint, c'est ce qui nous arrive. Très énigmatique. Je crois que quand on veut éviter un mur et qu'on focalise trop sur le mur, on finit toujours par aller dans le mur. Et dans la vie chrétienne, c'est exactement ça. À force parfois d'avoir peur, même dans la vie de tous les jours, à force d'avoir peur de quelque chose, on en a peur, on se contracte. Résultat, on arrive dessus, on ne sait plus quoi faire et on va directement dans le mur. Levez les yeux, levons les yeux. Peuple d'Israël, Goliath vient, mais regardez, vous avez au-dessus de vous l'Éternel, le Dieu des armées. Agissez dans une position de foi. Soyez dans une position de foi. Et là, on a David qui arrive, le petit bonhomme, hein, qui va prendre ses quelques pierres polies dans le torrent, qui va prendre sa fronde, et puis en une seule pierre, poum, le géant va tomber. Tout ça parce que David n'a pas regardé aux 3 mètres de Goliath, n'a pas regardé à son passé de guerre, d'homme de guerre, mais il a regardé à l'Éternel des armées. Ne regardons pas le mur, ne regardons pas la montagne, ne regardons pas la difficulté. Oui, elle peut venir. Oui, comme elle ne peut ne pas venir. Goliath aurait pu avoir une grippe ce jour-là. Sinon, notre foi, elle se contracte. Troisième chose. Bon, on va passer. David va venir et va tirer le peuple en avant. Et il va communiquer du courage. Il va transmettre du courage par sa vision de foi. Il va vaincre les combats familiaux. Eliab va lui dire, mais t'es là uniquement pour voir, je connais, t'es un petit curieux, toi. Il va passer outre. Il va passer la barrière de Saül qui voudra lui coller l'armure, son armure à lui. Pauvre, il ne pouvait pas bouger. Il dit, non, je vais y aller tout seul. Et puis derrière lui, une fois que le géant est tombé, le peuple va obtenir la victoire, va foncer derrière David. Jésus est le divin David. Il a initié la victoire. Nous marchons dans ses pas. Et en lui, nous avons le courage. Lorsque je regarde la vie de Jésus, lorsque je vois qu'il a été fatigué au puits de Sichem et que pourtant, il a pris le temps de discuter avec cette Samaritaine, je suis émerveillé. Lorsque je vois toute la patience que Jésus a pu avoir avec Judas, alors qu'il savait que c'était un voleur et un escroc, alors qu'il savait qu'il piquait dans la bourse. Et pourtant, il l'a aimé, il l'a enseigné. Lorsque je vois l'amour qu'il a eu envers les foules, ça me donne du courage. Lorsque j'ai vu sa patience à mon égard, ça me donne du courage. Et de la même manière, parce que nous aurons cette vision de foi et que nous pourrons la transmettre, alors nous serons comme David. Nous donnerons du courage à ceux qui nous entourent. Parmi vous, il y a des hommes et des femmes qui m'ont donné du courage bien souvent. Alors que les bras étaient quelque peu bas, à travers d'un témoignage, sans même que vous ne le sachiez. Vous m'avez donné du courage. Vous m'avez donné du courage. Que le Seigneur nous bénisse. Conclusion, que transmettons-nous? Que transmettons-nous à nos enfants, à nos amis? Deuxième question, qu'avons-nous transmis? Qu'avons-nous reçu? A-t-on mis des choses toxiques dans notre cœur? Laissons le Saint-Esprit nous sonder afin de les arracher. Mettons-les à la lumière. Et alors, eh bien, le Seigneur fera son œuvre dans notre cœur. Et nous-mêmes, nous ne les retransmettrons pas à notre tour. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons prier.